Géopolitique.fr. Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique. Les États-Unis, après les midterms du 6 novembre, la Chambre des représentants est désormais aux mains des démocrates, tandis que les républicains conservent et même renforcent leur majorité au Sénat. Des résultats qui consacrent la division de l'Amérique. Alors, qui a véritablement gagné ces élections à mi-mandat? S'agit-il d'un revers pour Donald Trump ou d'une demi-victoire pour les démocrates? Comment s'annonce cette cohabitation à l'américaine? Qu'est-ce que ce nouveau rapport de force au Congrès peut changer dans la politique intérieure et dans la politique étrangère de Donald Trump? Le président devra-t-il accepter des compromis ou revoir ses ambitions à la baisse? Quelle sera la stratégie des démocrates? Quelles sont les figures, les leaders potentiels qui ont émergé de ces élections? Comment chaque camp va-t-il se préparer au scrutin de 2020? On en débat avec nos invités. Alexandra de Hopschaeffer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, spécialiste de la politique américaine et des relations transatlantique, directrice en France du think tank américain German Marshall Fund of the United States. Dick Howard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et politologue, professeur émérite à la Stony Brook University de New York. Et Philippe Golub, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Alors, c'est évidemment par un tweet que Donald Trump s'est félicité mardi soir d'un immense succès. Tandis que Nancy Pelosi, côté démocrate, déclarait « Demain sera un jour nouveau pour l'Amérique ». Alexandra de Hopschaeffer, chaque camp a eu raison de se réjouir ou est-ce que les républicains ont quand même subi un échec en perdant la Chambre des représentants?
Les résultats de ces élections mi-mandat représentent pour moi en fait une victoire partielle, incomplète pour les deux partis. Et puis surtout, ça les incite, on le voit immédiatement, à en tirer des leçons en vue de la campagne de 2020. Il faut comprendre ces élections de mi-mandat comme une répétition de ce qui va se passer en 2020. Et donc un test aussi pour ces deux partis quant à l'efficacité ou pas de leur stratégie électorale. Du côté démocrate, on n'a pas eu cette vague bleue ou cette vague anti-Trump, en tout cas l'ampleur espérée par le parti démocrate. En même temps, ils ont quand même eu de belles victoires au niveau notamment des gouverneurs, qui vont jouer un rôle décisif, notamment dans le redécoupage électoral, qui est absolument clé, qui va se passer donc d'ici en 2021. Et côté républicain, quand même, c'était le propos d'une de mes dernières tribunes, on voit vraiment qu'il a une certaine résilience politique aux États-Unis aujourd'hui, qu'il a réussi à trumpiser à fond le parti républicain, à regalvaniser à fond sa base électorale. Mais là aussi, le résultat sonne comme un avertissement pour Trump à l'horizon de 2020. Quand on regarde les exit polls, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu le profil des électeurs du Parti républicain, ce qui, moi, me frappe, c'est de voir à quel point un certain nombre d'électeurs qui avaient porté Trump à la Maison-Blanche en 2016, notamment dans les zones périurbaines, dans les villes, parmi le vote des femmes, parmi aussi les votes des indépendants, ont glissé dans le giron démocrate, alors qu'ils avaient voté très majoritairement en faveur de Trump. Donc je dirais, des deux côtés, il y a des défis. Les démocrates, c'est comment faire en sorte que la diversité, cette coalition diverse qui a voté pour les démocrates, les femmes, les minorités, les jeunes, forme un groupe, une base électorale qui soit solide et durable d'ici 2020. Et pour les républicains, c'est de se poser la question, est-ce que notre stratégie électorale, à savoir parier sur cette base électorale très étroite, qui est vraiment une population majoritairement masculine, blanche, non diplômée, est-ce que c'est tenable, y compris à l'horizon 2020?
Dick Howard, Donald Trump s'est beaucoup impliqué dans la campagne électorale, il a sillonné le pays. On a dit qu'il avait voulu faire de ses midterms un référendum pour ou contre lui. Est-ce qu'il a perdu son pari?
Non, il n'a pas perdu, mais est-ce que c'était vraiment l'enjeu? Il a fait campagne dans 4 États surtout, et a fait campagne pour les candidats au Sénat. Et effectivement, bien que c'est toujours pas déterminé en Floride, dans les autres cas, il a gagné. Mais c'est quoi au juste cette Amérique qui vient de retourner les républicains au Sénat? C'est ça la question qui est intéressante. Et une première réponse dirait que si on additionne ceux qui ont voté dans les élections pour la Chambre, si on regarde les divisions, il y a 50 millions de gens qui ont voté pour les démocrates, pour la Chambre, pour le Sénat, avec les petits États comme le Wyoming, par exemple, population 600 000, comparé à la Californie, presque 40 millions, il y a un problème. Et ce qui me gêne et ce qui m'a amené à écrire un livre qui retrace justement la période qui va de Kennedy donc à Trump...
Les ombres de l'Amérique.
Oui, c'est que je crains qu'on va vers une crise constitutionnelle. Je crois que la République elle-même doit faire face à des dangers, d'une part entre Sénat et Chambre, puis la Chambre même est dominée par les métropoles, tandis que le Sénat, je reviens sur le Wyoming, 600 000 qui élisent deux sénateurs. Donc il y a un problème, et la manière dont Trump a accédé à la présidence et la manière dont il fait campagne ne font que encourager ces divisions. Que je ajoute à cela une dernière remarque. Lors de la campagne pour le gouverneur de la Floride, il y avait un candidat trumpiste qui a gagné des primaires à cause du soutien de Trump. Il était opposé par le maire d'une ville de la capitale de Floride, qui était noir. Et à un moment, ce maire donc noir a lancé à son opposant, « Je ne dis pas que vous êtes raciste, mais les racistes pensent que vous êtes bien des leurs. » Et je crains que ce que fait Trump exacerbe encore ces divisions.
Philippe Colu, vous partagez le pessimisme de Dick Howard? Ce scrutin a entériné les divisions de l'Amérique?
Alors je pense que la remarque de Dick Howard sur la question de la crise, d'une crise potentielle constitutionnelle, est une remarque tout à fait pertinente. Le juriste Sanford Levinson, aujourd'hui de Texas Austin, mm-hmm. a écrit un livre en 2006 intitulé « Our Undemocratic Constitution », notre constitution non démocratique, dans lequel il souligner à juste titre ce que nous savons tous, nous, observateurs sur les États-Unis, que le système politique américain est en fait un système qui déjoue la souveraineté populaire très souvent. On l'a vu lors de plusieurs élections où le vote populaire ne correspondait pas aux résultats des élections. On l'a vu sous George Bush en 2000, pour parler des élections les plus récentes, et évidemment sous Trump en 2016.
Oui, puisque Hillary Clinton avait recueilli
3 millions de voix de plus. Si on regarde de près effectivement la question du Sénat, le Sénat et non représentatif de la population américaine dans son ensemble. Quand des tout petits États ont le même poids politique au Sénat américain que les grands États, quand le Wyoming, effectivement, a le même poids politique au Sénat que la Californie, qui a 40 millions d'habitants, on est dans un système non démocratique, dans le sens de la souveraineté populaire. On n'est pas dans un système de représentation de la souveraineté populaire. Et effectivement, aujourd'hui, du fait de cette construction constitutionnelle archaïque, en quelque sorte, et c'est vrai du collège, du système du collège électoral américain pour les élections présidentielles, les républicains aujourd'hui, c'est les républicains de Trump, mais c'est les républicains des droites extrêmes qui étaient déjà là avant Trump. Il y a un fond d'extrémisation, un phénomène d'extrémisation sur le long terme qui s'est passé dans le parti. Ce parti-là, qui est un parti qui est à la droite aujourd'hui de Marine Le Pen, si on fait des comparaisons, bien que les phénomènes sont assez différents, n'est-ce pas? Ce parti domine les institutions clés de la République, même avec la victoire démocrate dans la Chambre. Il domine le Sénat, et le Sénat détermine les nominations à la Cour suprême. Il domine la Cour suprême comme ils ne l'ont jamais dominée depuis des décennies, si... Les comparaisons peut-être peuvent être faites à la fin du 19e siècle du point de vue de la base idéologique de la Cour suprême. Et maintenant, grâce à sa domination du Sénat, il pourra sans doute nommer un ou deux membres de la Cour suprême qui sont nommés à vie et puis confirmés, enfin, nommés, ouais. Et confirmés à vie. Ah, là encore, un phénomène tout à fait non démocratique et tout à fait archaïque. Il domine évidemment l'exécutif et il domine les institutions très puissantes de sécurité nationale des États-Unis. Donc elle est là dans un phénomène de domination non démocratique dans le sens précis que je l'ai dit. Et donc, je partage le pessimisme exprimé par mon collègue Dick Howard.
Dick Howard.
Juste, quand même, il y a eu un moment où il y avait ce genre de domination par la Cour, c'était au moment du premier New Deal. Entre 32, quand Roosevelt est élu, et 36, la Cour est dominée par la droite et la Cour renverse des mesures proposées par Roosevelt. Alors, là où j'ai quand même un peu d'optimisme, c'est que ce système manifeste une résilience qui est souvent remarquable. Quand j'ai parcouru donc cette histoire de Kennedy à Trump, quand j'ai regardé, par exemple, on parle des divisions qui minent le pays actuellement, mais qu'est-ce que c'était au moment de la guerre au Vietnam?
Et vous rappelez aussi les propos très durs de Franklin Roosevelt sur les migrants aussi.
Ses mots les plus durs, c'était en 36, lorsqu'il fait campagne pour un deuxième mandat. Et là, il dit à une grande réunion à Madison Square Garden à New York, il dit, ces capitalistes veulent ma peau, allons-y. Il déclarait la guerre au capitalisme. Mais plus largement, si on prend l'élection de Reagan, si on prend la dite révolution par laquelle les républicains en 94 prennent le pouvoir au Congrès, chaque fois il y a un rebondissement intéressant. Et je me demande d'où ça pourrait venir, mais je ne doute pas. C'est trop.
Je voulais réagir à ce qu'a dit
Alexandra devant.
Oui, sur justement la manière dont Trump est vraiment en train de droitiser le système judiciaire américain. Parce que là, effectivement, on ne parle pas du court moyen terme, on parle du très long terme, de au moins 30-40 ans. Et puis non seulement des nominations à la Cour suprême, et on va en avoir d'autres vu l'âge de certains juges actuellement à la Cour suprême, mais c'est aussi le nombre phénoménal de juges qu'il a nominés et donc fait confirmer par le Sénat,
60,
au niveau des cours fédérales, plus de 60. Et la priorité du Sénat aujourd'hui qui est acquis à la majorité républicaine et donc à Trump, et Trump et Mitch Connell qui aujourd'hui est le chef de la majorité républicaine au Sénat, l'a dit, notre priorité c'est de continuer et d'accélérer la nomination des juges. Et on a parlé de cette polarisation dans un contexte de polarisation politique extrême, d'un Congrès, on va certainement en parler, qui est divisé, qui va certainement être beaucoup plus paralysé sur un certain nombre de sujets, ce sont les juges qui, in fine, tranchent aujourd'hui sur les enjeux de société et sur des enjeux qui même vont au-delà de l'immigration, de l'assurance santé, etc. Et donc là, l'empreinte en fait de Trump, hein, la trumpisation finalement des réformes sociétales aux États-Unis, elle est lâchée et elle est là, et elle est là pour durer. Donc c'est pour ça que d'un côté, ces élections midterms, voire même l'élection présidentielle de 2020, sont presque moins importantes que ce phénomène-là, vraiment de refaçonner ce paysage judiciaire.
Philippe Golub.
Effectivement, il y a les structures institutionnelles, il y a les phénomènes immédiats, et puis il y a les tendances sociologiques long terme. Là où il y a des espoirs, des espérances à venir, mais c'est dans un moyen terme et un long terme qu'on ne connaît pas par définition, puisque l'avenir n'est pas connaissable dans ce sens-là, c'est la transformation démographique et sociologique des États-Unis. C'est-à-dire que on l'a vu un peu quand même dans l'élection de Floride avec Gillum, hein, le candidat démocrate, africain-américain, très progressiste. Il y a une transformation de la société américaine qui est longue, avec une présence de plus en plus forte des Hispaniques, une présence de plus en plus forte d'autres minorités actives, avec un basculement évidemment démographique qui va à l'encontre de cette minorité blanche, masculine et vieille, de plus en plus vieille, n'est-ce pas? Et donc à long terme, les États-Unis ne vont pas du tout ressembler aux États-Unis d'il y a 20 ans, hein, du point de vue démographique, du point de vue de la composition de la population. C'est une des raisons de fond, d'ailleurs, de la réaction virulente du Parti républicain dans sa constitution actuelle et de sa tentative de prise de contrôle et de pouvoir sur les institutions pour pouvoir bloquer pendant 10, 15, 20 ans encore des évolutions qui deviendront sans doute inéluctables à long terme. Un danger qui se présente, et on en discutera peut-être, dans les deux ou 3 ans à venir, peut-être, les 2 ans en tout cas à venir, c'est que maintenant qu'il a confirmé une assise politique réelle dans le pays, mais en même temps qu'il est quelque part menacé, Trump pourrait très bien être tenté de mener des aventures externes pour pouvoir consolider sa situation en interne.
Dick Howard, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, à propos de ce rôle du judiciaire et tout ça, si on regarde l'histoire américaine à plus longue échéance, on peut réécrire cette histoire en termes d'une lutte entre les trois ou les quatre instances, entre le judiciaire, l'exécutif, le législatif et les États fédérés. D'où viendra les innovations dans les deux, trois années qui viennent? J'ai deux choses à ajouter à cet égard. D'une part, cette reprise du judiciaire par le Parti républicain a démarré juste après l'élection de Ronald Reagan. En 82, se crée une organisation qui s'appelle The Federalist Society. Et l'idée, c'est de regrouper des étudiants en droit et des jeunes juges dans une organisation où on va aller inculquer une certaine idéologie très conservatrice, et petit à petit, on commencerait ce que notre ami Mao Zedong appelait la longue marche au travers des institutions. Et troisième remarque, à mon sens, il y a une institution qui n'est pas constitutionnelle, mais qui est vitale pour comprendre les États-Unis, c'est le rôle des partis politiques. Et quand vous parlez tous les trois, vous semblez accepter la trumpisation du Parti républicain. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une désintégration des deux partis politiques. Les républicains, peut-être si on prend le Federalist, là, les juges dont je parle, peut-être que ça fait un peu la colonne dorsale de ce parti, peut-être. Mais pour les démocrates, je ne vois pas trop ce qui les tient ensemble.
On va revenir tout à l'heure peut-être sur le Parti démocrate. À propos des femmes dont on a beaucoup parlé cette semaine et qui vont faire leur entrée au Congrès en 2019, les deux premières femmes musulmanes, les deux premières amérindienne. Est-ce que ça traduit quelque chose quand même qui incite à l'optimisme concernant la société américaine, Alexandra?
Oui, bien sûr. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir maintenant les sondages et ce qui ressort vers quelle partie le vote des femmes a porté est masculin, et c'est vraiment à l'opposé. On a une fracture de gender à ce niveau-là. Deux tiers des hommes ont voté républicain et plus de deux tiers des femmes ont voté démocrate. Et donc là, effectivement, le vote des femmes dans cette élection midterm a été absolument décisif, notamment dans ce phénomène de glissement que j'ai décrit, des zones périurbaines et du vote indépendant dans le camp démocrate. Parce qu'il y avait quand même un certain nombre de femmes qui avaient voté pour Trump. Et ces femmes-là qui ont voté pour Trump en 2016 ont dit « je vote démocrate aux élections de mi-mandat ». Et effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on a plus de 100 femmes qui arrivent au sein du Congrès. Hein. C'est un chiffre record. Ça ne s'est jamais passé, souvent jeune, effectivement.
C'est moins d'un quart quand même.
Moins d'un quart, mais c'est quand
mais
même.
C'est au moins 123 femmes.
Voilà,
c'est mieux qu'avant.
Voilà, c'est mieux qu'avant. C'est historiquement quand même très, très marquant. Et ça s'est vraiment passé dans le vote pour le Parti démocrate. Donc là, effectivement, se pose la question, est-ce que le Parti démocrate, alors eux, c'est ce qu'ils défendent, ne sont pas le parti qui est le plus ressemblant à ce qu'a décrit Philippe Golub, c'est-à-dire cette évolution démographique, cette évolution culturelle qui normalement devrait aller dans un sens de moins en moins conservateur, avec une Amérique plus métissée, plus plurielle. Et est-ce que le Parti républicain aujourd'hui justement ne rate pas le coche en fait de cette évolution démographique? Et il y a le Bureau du recensement américain qui a même avancé la date à partir de laquelle l'Amérique deviendra ce qu'on appelle une Amérique de minorité majoritaire. Ça se passera avant 2040, c'est ce qu'ils disent, où la population blanche américaine représentera moins de 50% de la population totale. Donc effectivement, se pose la question, est-ce que le Parti républicain, en fait, n'échoue pas à vouloir se raccrocher désespérément à ce Sénat et au collège électoral? Est-ce que c'est une stratégie durable, ou est-ce qu'il ne faut pas qu'il révise complètement sa manière d'élargir ou pas sa base électorale?
Et cette mobilisation des femmes au profit des démocrates, est-ce que c'est aussi une conséquence de l'affaire MeToo ou pas?
Alors oui, et c'est aussi une des conséquences, là, les sondages qui viennent tout juste de sortir de l'affaire Kavanaugh. la
Brett Kavanaugh.
Voilà, exactement. On a posé justement la question à des femmes qui ont voté donc ces élections de mi-mandat. Est-ce que l'affaire Kavanaugh, donc cette nomination du juge conservateur Kavanaugh, qui a été accusé donc d'agression sexuelle, est-ce que ça a été un facteur dans votre vote? Et là, à plus de 70%, elles répondent oui. Donc bien sûr que c'est un facteur.
On va se séparer le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à parler de l'après-midi.
Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. On débat de l'après-midterms avec trois politologues spécialistes des États-Unis, Alexandra de Hopschaeffer, Philippe Golub et Dick Howard. Venons-en maintenant à cette cohabitation qui va commencer le 3 janvier prochain. Vous la voyez comment cette cohabitation, Philippe Golub ?
Alors, il semblerait que le Parti démocrate dans la Chambre et l'intention d'accentuer à la fois le contrôle de l'administration Trump et aussi la pression sur l'administration Trump sur toute une série de dossiers, que ce soit le dossier de l'interférence de puissances étrangères dans l'élection américaine de 2000.
La Russie
et les affaires financières personnelles du président, les conflits d'intérêts permanents au sein de cette administration. La question qui est posée par certains éléments du Parti démocrate voudraient, semble-t-il, initier une procédure de destitution, ce qui ne marcherait pas, en fait, parce que le Sénat ne serait pas prêt à destituer le président. En tout cas, la Chambre des représentants pourra avoir une voix, VOIX, dans les débats politiques nationaux. Et il faudra, pour que ça devienne efficace, comme Dick Howard l'a dit, que le Parti démocrate définisse ce qu'est le Parti démocrate aujourd'hui. En fait, nous avons, pour simplifier, deux partis démocrates. L'un qui est l'ancien establishment démocrate, qui est toujours là, qui est présent dans la Chambre, qui est présent dans les réseaux anciens de l'administration Clinton et de Hillary Clinton. Et de l'autre côté, une nouvelle génération, assez dynamique d'ailleurs, très féminisée, très genrée, de démocrates très, très jeunes et dynamiques, et qui sont en contradiction, en tension très forte avec l'establishment du Parti démocrate. Et donc cette question-là, la résolution de la tension au sein du Parti démocrate est un préalable avant de savoir ce que fera et ce que peut faire le Parti démocrate à partir de sa nouvelle victoire dans la Chambre.
Alexandra de Hopschaeffer, vous êtes d'accord? Il va y avoir une fracture entre deux lignes au sein du Parti démocrate, celle incarnée peut-être par Nancy Pelosi, qui va reprendre sans doute le perchoir à la Chambre des représentants en janvier, et puis les jeunes élus, la jeune garde qui fait son entrée à la Chambre des représentants.
Bien sûr, ces élections mi-mandat sont une photographie vraiment des divisions politiques aujourd'hui qui divisent l'Amérique. Je dirais que la relation ces deux prochaines années entre Trump et le Parti démocrate vont effectivement être définies par ces enquêtes qui vont commencer dès le début de l'année 2019, bien sûr sur les conflits d'intérêts, sur les soupçons de collusion avec la Russie, mais aussi sur les soupçons d'entrave à la justice lors du limogeage du patron du FBI et maintenant du licenciement de Jeff Sessions. Voilà, exactement, le procureur général.
Et puis, ce qui est étonnant, c'est que Donald Trump n'a pas attendu.
Non.
Au lendemain des résultats, il annonce sur Twitter, comme d'habitude, le licenciement de Jeff Sessions.
Voilà, tout en douceur.
Et il fait descendre des milliers d'Américains dans la rue.
Absolument. Donc là, c'est là où le Parti démocrate, et Nancy Pelosi l'a très bien dit dans son discours après les résultats, il s'agit de restituer les contre-pouvoirs. Parce qu'effectivement, les Républicains à la Chambre des représentants, mais aussi au Sénat, ont plutôt joué le rôle de protecteur jusqu'à maintenant, de leur président Donald Trump. Là, ça va être le contraire. Ça va être enquêté, mais encore une fois, il faut que le Parti démocrate soit intelligent, soit discipliné et, je dirais, organisé. Il faut qu'il soit sélectif, qu'il lance une enquête sur des sujets prioritaires, là aussi où les Américains sont désireux, en fait, qu'il y ait vraiment un contre-pouvoir et un meilleur contrôle, supervision de l'action de leur président Donald Trump. Donc là, il va y avoir un débat interne, effectivement, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais vous allez aussi voir des tensions assez similaires au sein du Parti républicain, où effectivement, les sénateurs qui ont été complètement portés par le président Trump vont être acquis à sa cause, mais d'autres personnalités, comme Mitt Romney, lui, n'a pas du tout fait campagne sur le président Trump. Au contraire, il est resté relativement au centre. Donc, dans les deux parties, je suis tout à fait d'accord, va y avoir, dans un premier temps, un débat interne. Et ça va définir ensuite leur stratégie dans ce contexte de congrès divisé.
Philippe Golub, on l'a pas dit encore, mais la Chambre des représentants a un droit de veto sur le budget. Donc elle peut couper les vivres à l'administration fédérale, et c'est le fameux shutdown, cette épée de Damoclès là, qui pèse sur l'État fédéral. Est-ce que c'est une arme à double tranchant ?
Ça l'a toujours été. Chaque fois que les Républicains ont utilisé cette arme ou tenté d'utiliser cette arme, ça a eu des effets contraires à ceux escomptés par les utilisateurs. C'est-à-dire que le Congrès peut quand même utiliser le pouvoir de la Chambre. Les démocrates peuvent utiliser le pouvoir de la Chambre pour contrôler de très près les dépenses de l'État fédéral, par exemple le budget militaire, les budgets dans les différents secteurs de l'activité dépensière de l'État. Mais je voudrais revenir à la question de la conflictualité, parce que je pense que c'est important. L'idée qu'il faille trouver un consensus central autour duquel orienter tout le parti, et donc les forces d'opposition des États-Unis, qui sont majoritaires au plan du vote populaire, me semble erronée dans une situation où justement ce furent le manque de distinction essentielle pendant des décennies entre les partis politiques sur le plan de leurs politiques économiques et sociales et fiscales, qui ont en grande partie façonné le problème que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et le fait que Bernie Sanders et la gauche du Parti démocrate aient surgi de façon puissante au cours de l'élection présidentielle dernière, à la surprise de Hillary Clinton, à la surprise du Parti démocrate institutionnel, montrait bien qu'il y a une demande pour des politiques alternatives à celles qui étaient menées jusqu'à là, où entre les républicains et les démocrates sur le plan des politiques fiscales et sociales, les distinctions n'étaient pas très clairement définies et fortement clivées. Les clivages politiques sont essentiels pour la définition. Je ne parle pas de la guerre. La guerre interne, ce n'est pas ça. Mais les clivages politiques sont essentiels, y compris au plan idéologique. Il est nécessaire de poser ces clivages pour pouvoir aller de l'avant. Je pense qu'il est absolument nécessaire, et c'est vrai aussi des partis sociaux-démocrates en Europe qui s'effondrent les uns après les autres, de trouver les moyens d'un discours à la fois réancré dans un passé lointain et novateur pour ce qui concerne les questions sociales. Les petites classes moyennes et les pauvres qui votent pour Trump expriment quelque chose de réel, une souffrance réelle de la société américaine que les démocrates n'ont pas suffisamment pris en question.
Et ça, c'était l'erreur de Barack Obama, Alexandra ?
Oui, et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que il y a eu un inversement aussi dans le vote entre les zones rurales et les zones périurbaines. Et ça s'est accéléré sous Barack Obama, où notamment les États ruraux, où les électeurs votaient majoritairement démocrates, ont petit à petit glissé dans le giron républicain. Parce qu'ils se sont dit, le parti démocrate va trop loin, en fait, dans le multiculturalisme, dans toutes ces tendances vers le métissage, de la population, le fait qu'en fait ces zones rurales se sont senties, et on le sent quand on va dans ces états-là, se sont senties abandonnées par le Parti démocrate qui a tout misé sur les minorités, les femmes, etc. Donc il y a eu ce sentiment-là, et puis inversement dans les zones périurbaines qui étaient plutôt acquises à la cause des républicains, se sont petit à petit tournées vers le Parti démocrate. Donc ce qui est extrêmement intéressant, et ces élections mi-mandat le montrent, il y a eu une espèce de réalignement politique, en fait, des deux côtés. Et aujourd'hui, aussi bien les démocrates que les républicains se rendent compte des effets dévastateurs, en fait, de leur stratégie électorale qui ont finalement divisé leur électorat. Et c'est pour ça que je suis d'accord sur l'idée qu'il faut trouver des choses qui unissent les Américains politiquement, culturellement aujourd'hui. Mais quand on y habite, quand on s'y rend et quand on parle avec eux, il y a surtout des choses qui les divisent aujourd'hui. Et malheureusement, les chefs de partis politiques, le président américain, n'ont fait qu'accélérer ces divisions pour des raisons purement tactiques et de politique de très court terme, mais avec des effets dévastateurs sur le moyen et le long terme. Donc c'est ça, et c'est pas un phénomène seulement américain, c'est un phénomène français, transatlantique, européen, brésilien. On voit qu'il y a des Trump qui poussent un peu partout, pour la raison qu'a évoqué Philippe Golub, hein, c'est que les citoyens estiment que les gouvernements, les leaders qui ont été au pouvoir au cours de ces dernières décennies, ont été d'abord incompétents, n'ont pas su répondre à leurs préoccupations, n'ont pas su également gérer les conséquences de cette mondialisation effrayé, mal maîtrisé. Vous ajoutez à ça les effets et les craintes que peuvent générer la digitalisation du marché du travail, de l'économie, de l'emploi. Donc tout ça fait que les citoyens, dans les démocraties en particulier, ont reporté leur vote sur des personnalités beaucoup plus nationaliste finalement, avec ce sentiment que cette mondialisation n'a pas su être contrôlée au niveau des conséquences que ça a pu avoir sur l'économie nationale, sur l'emploi. Et on peut faire un parallèle avec notre propre scène politique où Emmanuel Macron a été un disrupteur politique sur la scène politique nationale. Pas sur le même,
oui,
bien sûr,
pan
politique, le dégagisme. Lui, il a gagné au centre, tandis que Trump a gagné plutôt à l'extrême droite. Mais il y a cette forme de dégagisme qui se passe un peu partout.
Alors, très concrètement, à partir de janvier, qu'est-ce que Trump ne pourra plus faire? Est-ce qu'il va devoir réviser ses ambitions à la baisse, et notamment sa volonté de, je sais pas, par exemple, détruire l'Obamacare, de baisser à nouveau les impôts? Est-ce que ce genre de choses, les démocrates feront barrage? Philippe Golub.
Il faut distinguer entre la politique intérieure, ce qu'il pourra faire en politique intérieure, et ce qu'il pourra faire en politique internationale.
Ouais. Parlons d'abord de la politique intérieure.
Non, mais je veux dire, c'est important de noter que ses prérogatives en politique internationale ne sont totalement intactes, et ne sont en rien diminuées par la prise de contrôle par les démocrates de la Chambre, n'est-ce pas? En politique intérieure, effectivement, Obamacare, je pense que les programmes de santé, de sécurité sociale, les questions sociales et sociétales, sur tous ces enjeux-là internes aux États-Unis, il devra probablement composer avec une Chambre des représentants qui aura, je l'espère du moins, un agenda clair et cohérent du point de vue d'un retour à une certaine forme de stabilité minimale. Je pense par exemple aux impôts. Le programme fiscal de la présidence Trump est un programme totalement irresponsable, n'est-ce pas? L'endettement des États-Unis n'a jamais été plus large, l'endettement international des États-Unis, l'endettement intérieur n'a jamais été plus large, et les programmes sociaux intérieurs américains en souffrent énormément, n'est-ce pas? Et donc il y a toute une refonte fiscale à faire à nouveau, que je l'espère, le Parti démocrate initiera à partir de la Chambre des représentants. Et reste que, il n'est pas du tout sûr, que Trump ira dans ce sens. Trump pourrait décider, au contraire, d'aller vers une 2 ans de confrontation, mais c'est 2 ans le cycle, c'est un cycle extrêmement court, 2 ans de confrontation permanente avec le Parti démocrate. On va plutôt vers ce scénario-là qu'un scénario de coopération.
Et à propos de l'immigration, dont il a beaucoup joué pendant sa campagne, il a annoncé jeudi une réforme du droit d'asile. Il s'agirait d'interdire aux sans-papiers sur le territoire américain de déposer une demande d'asile. Quelle va être la position des démocrates là-dessus, Dick Howard?
Je pense que ce qui est en jeu, c'est en dernier lieu la Constitution elle-même et les institutions constitutionnelles, et que Trump ait prétendu avoir le droit de légiférer ainsi à partir de sa présidence, représente un danger. Et je m'explique la situation de la façon suivante. L'unité pour les Américains et pour ces immigrés qui veulent devenir américains, l'unité en question, c'est la Constitution. Ce n'est pas telle ou telle mesure. Moi, je me définis comme républicain dans un sens tout à fait américain, c'est-à-dire, je prends comme modèle Rome républicain, qui servait de modèle pour la séparation des pouvoirs, etc., et qui, tout de même, est devenu un empire. C'est unifié autour de Auguste. Là, ça pose problème. Je crois que ce que doivent faire les démocrates vis-à-vis du pouvoir trumpien, c'est effectivement des commissions d'enquête, d'accord, mais non pas sur la corruption au sens argent, en sens de s'enrichir. Il y a eu des membres du cabinet de Trump qui sont coupables de cela aussi. Mais c'est la corruption dans le sens, encore une fois, romaine du terme, c'est-à-dire que les institutions se dissoudent de l'intérieur. Et juste une remarque à cet égard, qu'on se souvienne toujours que l'année où était formulée la Déclaration d'indépendance américaine, 1776, était aussi la date de parution du grand livre de Gibbon, Le déclin et chute de l'Empire romain. Et ça, c'était présent à l'esprit des pères fondateurs. Et ça devrait être, me semble-t-il, là, comme une sorte de signalement, une sorte de feu orange qui nous dise de retarder notre avancée folle, quoi.
Alexandra Deobscheffer, vous êtes d'accord avec Philippe Goloub, la campagne pour 2020 est lancée au sens où Donald Trump se prépare à 2 ans d'affrontements et de guérillas encore avec ses rivaux démocrates.
Alors ça va lui sans doute lui permettre de montrer ses muscles hein, comme il aime le faire. Peut-être que d'un côté d'avoir justement les démocrates à la Chambre des représentants va lui permettre de matérialiser ce qu'il aime le plus, hein, c'est la confrontation. D'ailleurs si on pouvait trouver un synonyme au trumpisme, c'est ça, c'est la confrontation
permanente.
Mais c'est permanente et les guerres culturelles perpétuelles. Hein, et on l'a vu au cours de cette élection mi-mandat. Je dirais peut-être une des conséquences pour renouer avec ce qu'a dit Philippe Goloub, c'est que très souvent on l'a vu dans le cas où le président américain perd en partie la majorité au sein du Congrès, il peut s'avérer plus investi, plus actif sur la scène internationale. Hein, parce que là, effectivement, il a une totale liberté. Et ce qui est très intéressant, on pose souvent la question, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur nous, sur la relation transatlantique, sur son action extérieure. Moi, je pense absolument pas, mais encore une fois, c'est pas nouveau. Effectivement, il faut revoir la séquence historique depuis, je dirais, la fin de la guerre froide, où finalement, le rôle du Congrès, la Chambre des représentants et même du Sénat en matière de politique étrangère n'a cessé de s'affaiblir. Il y a vraiment eu ce qu'on appelle cette présidence impériale hein, qui n'a cessé de s'accentuer, cette centralisation de la prise de décision en matière de politique étrangère entre les mains du président et d'une toute petite équipe resserrée autour de lui à la Maison-Blanche. Et ce qui est très intéressant aussi à regarder, c'est que le Parti démocrate aujourd'hui partage finalement beaucoup de choses quant à l'action extérieure menée par Trump. Sur ces 3 piliers, le premier pilier, c'est moins d'interventionnisme militaire, surtout au Moyen-Orient. Les démocrates sont tout à fait d'accord avec l'idée. Des accords commerciaux plus équitables, y compris avec la Chine, potentiellement l'Union européenne, etc. Puis bien sûr avec le Mexique et le Canada. Et enfin, cette pression sur les alliés européens, donc nous, pour mieux partager le fardeau de la sécurité internationale et notamment au sein de l'Alliance Atlantique qui est l'OTAN.
Mais sur le retrait de l'accord sur le climat, l'accord de Paris, est-ce
oui.
que là les démocrates sont sur la même longueur d'onde que Donald Trump?
Non, alors sur le climat non, mais ils vont avoir aucune marge de manœuvre. Sur l'Iran, certains démocrates conservateurs ont soutenu la décision de Trump de retirer les États-Unis, d'autres s'y sont opposés. Mais là, ils sont divisés, mais ils n'auront vraiment très, très peu de marge de manœuvre pour changer la politique de Trump, sachant que là aussi, la priorité, c'est la relation et la bonne relation avec l'allié israélien. En revanche, sur la Russie, là, je vois un dossier sur lequel les démocrates vont vouloir mener des enquêtes, sur l'Arabie saoudite, et notamment les conséquences du soutien militaire logistique à l'Arabie saoudite dans la guerre au Yémen, et bien sûr sur les probables conflits d'intérêts entre certaines relations que Trump a nouées avec certains dirigeants dans le monde, l'Arabie saoudite, la Russie en particulier, et la Trump Organisation, et le business, par exemple, que mène sa fille en Chine. Donc là, il va y avoir aussi beaucoup d'enquêtes sur dans quelle mesure est-ce que certaines décisions de politique étrangère américaines sont influencées par la Trump Organization.
Un dernier mot, Philippe Goloub, on n'a plus beaucoup de temps.
Je pense que c'est très important de noter que le pouvoir exécutif tel qu'il est actuellement constitué au sein de la Maison-Blanche et dans les institutions de sécurité nationale américaine, c'est-à-dire les personnages nommés par Trump, ont une vision tout à fait cohérente de la politique internationale. Ce sont des ultra-réalistes, en quelque sorte, qui estiment, comme ils le disent eux-mêmes, que la continuité centrale de l'histoire, c'est le conflit pour le pouvoir et que ça a toujours été ainsi, que c'est encore le cas aujourd'hui et ce sera comme ça demain. Les relations internationales sont un jeu à somme nulle. Les alliances sont là quand ils sont utiles, mais sinon, on les déplace. Et on est là quand même dans une continuité longue d'une certaine forme de politique extérieure des États-Unis. On l'a vu, on peut retourner à 1918, 1919, 1920 avec Henry Cabot Lodge et non pas les isolationnistes, mais les nationalistes américains qui, au sein du Sénat américain, ont fait chuter la Société des Nations. Il y a là une forme de nationalisme exacerbé, de souverainisme américain qui est fortement ancré, et l'équipe au pouvoir est dans cette vision stratégique-là.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Alexandra Deobscheffer, directrice en France du think tank américain German Marshall Fund of the United States. Vous avez publié Hamlet en Irak en 2007 aux éditions du CNRS et vous êtes en train de finaliser un livre sur les interventions militaires américaines de George W. Bush à Donald Trump, et on a hâte hâte de vous lire. Dick Howard, merci beaucoup. Philosophe, politologue, je signale que vous venez de publier « Les ombres de l'Amérique, de Kennedy à Trump » aux éditions François Bourin. Philippe Goluck, politologue, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Vous avez publié « Une autre histoire de la puissance américaine » aux éditions du Seuil en 2011. Merci à Véronique Durand qui m'a aidé à préparer cette émission et à Nathalie Laporte qui l'a réalisée. Demain, nous parlerons de la montée du populisme dans le monde, géopolitique spéciale, enregistrée à la Villette à Paris dans le cadre du Forum sur la paix. Bonne soirée.